Sur efficacement vos projets en toutes circonstances grâce à une épargne sécurisée Suno Assurance qui vous propose priorité santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Problèmes d'apprentissage, communication complexe, lien social altéré, l'autisme est associé à des comportements aussi typiques que divers, aussi caractéristiques que variés. Une pluralité, que reflète l'appellation de trouble du spectre autistique, souvent employé aujourd'hui pour désigner ce développement hors norme. Car l'autisme est tout sauf singulier en termes de facteurs ou d'explications comme de symptômes. Une diversité qui conduit à la fois à des errances de diagnostic et à des querelles sur la définition même de ces troubles. Une variété qui brouille l'image que la société se fait des autistes, qu'elle voudrait figer dans des cases, tantôt étiquetées handicapées, tantôt surdouées. Mais si un sujet ne fait pas polémique, c'est bien celui de l'insuffisance des capacités d'accueil et souvent de leur inadaptation. Pas assez de structure pour les enfants. Et faute d'autres alternatives, encore l'internement comme solution pour certains adultes. Des discriminations dénoncées par le secrétaire général des Nations Unies, ces faiblesses qui ont déjà valu à la France d'être condamnée à 5 reprises par le Conseil de l'Europe pour discrimination, des défaillances, des insuffisances qu'un 4e plan autisme va une nouvelle fois tenter de corriger. Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. En studio, professeur Jean-Marc Baillette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du centre hospitalier intercommunal de Créteil. Professeur de pédopsychiatrie, vous êtes aussi associé à la Fondation Fondamentale. Julie Dachaise, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes autiste Asperger, c'est bien ça?
Asperger. Oui.
Asperger. Blogueuse, docteur en psychologie, auteur du livre Dans ta bulle aux éditions Marabout. Et avec nous également Christine Ménien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de la Fédération française Sésame Autisme. Tout à l'heure, nous serons en ligne avec Laurent Millem, chef de service éducatif, responsable du groupe Percujam, groupe de rock composé de jeunes artistes autistes. Et puis, illustration, la prise en charge au Cameroun. Tout à l'heure, nous serons en ligne également avec Marie-Mélanie Bell, présidente du centre Orchidée Home à Douala. Et bien sûr, notre numéro 1 pour nous joindre, témoigner, poser vos questions. C'est le 33 1 84 22 75 75.
RFI.
Professeur Jean-Marc Baillette, on va d'abord s'arrêter sur les termes et on va s'en rendre compte, hein, les mots sont très importants, très sensibles même quand on aborde la question de l'autisme. D'abord, deux terminologies que l'on va employer au cours de cette émission, autisme et trouble du spectre autistique, c'est quoi la différence entre les deux?
Eh bien actuellement, les dernières révisions des critères de diagnostic ont élargi considérablement les critères diagnostiques de telle sorte que l'on puisse considérer la diversité des situations. C'est-à-dire que c'est toujours la question d'un diagnostic, c'est à la fois une grande catégorie et en même temps, il ne faut pas oublier que chaque personne est différente. Donc cette tension conduit à établir une très grande catégorie et à l'intérieur de cette catégorie, introduire des capacités de diagnostic individuel des différentes dimensions de chaque personnalité qui vont être indispensables aux propositions d'un projet personnalisé pour chaque personne. Vraiment un projet qui va être adapté à chaque personne dans cette grande classification. Donc trouble du spectre autistique, c'est effectivement très 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 large. Ça associe des personnes qui ont des comorbidités, qui ont des syndromes associés, qui ont des déficiences intellectuelles ou pas, qui ont des dépressions ou pas, qui ont une hyperactivité ou pas, qui ont tout ce qu'on appelle des comorbidités. Et en même temps, au cœur de cette très grande catégorie, il y a quelques diagnostics très spécifiques qu'on appelait les autistes de Caner, qui sont une sous-catégorie très spécifique.
Mais quand on parle de l'autisme, professeur Baillette, on ne parle pas d'une maladie.
c'est à la fois une maladie et un handicap. C'est-à-dire que le handicap, c'est la conséquence sociale d'une maladie. Donc ça veut dire que ça doit être diagnostiqué par des médecins. Le diagnostic est parfois très difficile, d'autant plus qu'un enfant est très jeune. Il y a des comorbidités et des diagnostics différentiels, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, ça porterait tort de poser un diagnostic d'autisme à quelqu'un qui n'est pas autiste. Et donc cette connaissance médicale, ensuite, a des conséquences, puisque ça ouvre des droits. Et il est indispensable aujourd'hui que les personnes qui sont diagnostiquées, par l'intermédiaire de la MDPH, la Maison départementale pour les personnes handicapées, puissent leur permettre d'ouvrir l'accès à des droits sociaux et qu'il y ait une reconnaissance sociale du handicap, qui est une exigence. Et aujourd'hui, je pense que c'est indispensable de souligner à quel point nous sommes dans une situation d'inégalité d'accès aux ressources en fonction des familles, de leur milieu social et de leur niveau d'information.
Julie Dachez, en lisant votre livre, on comprend que vous avez du mal avec les définitions cliniques de l'autisme. Vous rejetez catégoriquement d'ailleurs le terme de malade. Mais justement, à un moment donné, vous racontez comment, puisque vous travaillez, vous êtes intégré, vous avez un travail universitaire, de la recherche, vous demandez des aménagements. Et là, on vous dit, ben non, tu prétends t'intégrer comme les autres, donc tu vas t'intégrer comme les autres, tu n'auras pas d'aménagement. C'est quand même quelque chose qui est assez extraordinaire à entendre. Pour vous, c'est terriblement douloureux. Pour quelqu'un de l'extérieur, ça paraît carrément incroyable qu'on puisse, les yeux dans les yeux, vous faire ce type de réponse.
Mais j'ai envie de vous dire qu'en fait, c'est extraordinairement banal. Mon vécu, c'est le vécu de beaucoup d'autres autistes, et c'est effectivement la difficulté quand on a une forme d'autisme invisible comme la mienne, c'est-à-dire quand on compense très très bien ses difficultés, on n'est pas pris au sérieux. Donc ça, c'est très compliqué. Effectivement, vous disiez que je rejette un peu la définition clinique de l'autisme. Oui, pourquoi ? Parce que cette définition, aujourd'hui, elle est centrée sur les déficits. Et l'autisme n'est pas une somme de déficits. Quand on est autiste, on a aussi énormément de qualités, de forces qui ne sont pas assez mises en avant, notamment une grande capacité de concentration, des hypercompétences dans les domaines qui nous passionnent, un grand sens de la justice, une très grande sensibilité, aussi une très forte résilience, et la liste pourrait s'allonger encore. Donc c'est pour ça que j'ai toujours un petit peu de mal, effectivement, avec cette définition très clinique et médicale.
Mais vous situez comme un membre d'une vaste communauté. Pourtant, quand on voit cette communauté, elle est tellement diverse, elle est tellement variée, c'est difficile de constituer justement, Julie Dachez, toutes ces personnalités, toutes ces personnes, toutes ces situations sous une seule et même appellation. Ça paraît même un petit peu étonnant.
Oui, c'est très compliqué. En même temps, il y a beaucoup de choses aussi qui nous rassemblent. C'est ce que disait tout à l'heure le professeur Ballet, il y a quand même des caractéristiques communes, même s'il y a de très fortes différences interindividuelles, c'est-à-dire des différences entre les personnes. Et au-delà de ça, on a une culture commune, en fait. On a les mêmes revendications, les mêmes espoirs, la même façon de communiquer, les mêmes héros, entre guillemets. Je pense notamment à Sheldon Cooper de The Big Bang Theory ou Edward Snowden, qu'on se plaît à imaginer autiste.
Et tout alors ça, là, pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément la culture, donc s'il s'agit d'un feuilleton, d'une série télévisée,
exactement.
Et l'autre, c'est le lanceur d'alerte qui avait justement défrayé la chronique, oui, à propos de tous ces télégrammes diplomatiques sur justement les relations entre les pays et aujourd'hui qui est poursuivi par la justice américaine. Mmh. Christine Ménian, on entend la voix des personnes qui sont atteintes. Il y a aussi tout l'entourage qui a un énorme travail à faire avec une question primordiale quand on parle de l'autisme, c'est bien celle de l'intégration, mais même au-delà de l'intégration, c'est de trouver des structures adaptées pour les différents cas.
Oui, tout à fait, mais d'abord, c'est vrai ce que vous avez dit, il y a aussi la famille, l'entourage, la découverte pour les parents d'un enfant qui a des particularités, tout le parcours complexe que nous a rappelé le professeur de rechercher un diagnostic. Vous savez qu'en France, il faut en moyenne plus de 2 ans d'attente avant d'avoir un diagnostic. C'est quand même extrêmement long.
Comment on explique justement ce délai ?
Parce qu'il manque des centres de diagnostic performants qui soient suffisamment au niveau des connaissances actuelles. On demande, je pense que les pouvoirs publics ont pris conscience de ça, et donc il va y avoir sans doute un effort de formation, parce que c'est de former vraiment les professionnels à ce qu'est l'autisme pour pouvoir et les équipes pluridisciplinaires pour pouvoir à la fois diagnostiquer et évaluer, parce que ça c'est pas un simple diagnostic, hein, ça a été rappelé. Il faut évaluer les potentialités de la personne et pas seulement le voir en négatif.
Juste, je vous interromps pour poser cette question au professeur Jean-Marc Balait. C'est quoi les compétences, c'est quoi les spécialités médicales ou autres justement mobilisées pour établir ce diagnostic?
Alors la réponse est essentielle aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pas suffisamment de moyens et que nous sommes dans une situation qui est insupportable dans de très nombreuses régions de France, c'est d'avoir des délais d'attente qui vont de 6 mois à plus de 2 ans. Donc le diagnostic est difficile, c'est un diagnostic d'équipe pluridisciplinaire et actuellement, ce diagnostic, les structures de diagnostic, les CMP, les CMPP, les CAMS, toutes les structures qui sont pleines de professionnels compétents qui doivent pouvoir faire ces propositions de diagnostic et de projets personnalisés, comme on en parlait tout à l'heure, ne sont pas en situation d'y répondre. Donc c'est insupportable d'une part par le délai qu'il y a, et également par le fait qu'un certain nombre de familles, une fois que l'enfant est diagnostiqué, n'ont pas de solution en termes de prise en charge. C'est-à-dire que là, à nouveau, ils vont devoir attendre 6 mois, 1 an ou 2 ans, alors qu'on sait qu'il faut le plus tôt possible des prises en charge qui soient structurées, intenses et précoces. Et toute la question de la recherche, là, est aussi, je me permets de souligner à quel point, on sait aujourd'hui qu'on serait capable, dans l'immense majorité des cas, il suffit d'écouter les familles, pour faire des diagnostics à 18 mois ou à 2 ans ou à 3 ans. Les diagnostics en France sont faits plutôt entre 4 et 5 ans en moyenne.
Justement,
les diagnostics
ce délai,
d'Asperger, c'est à 8 ans, 7 ans, 8 ans, alors qu'on le sait depuis que les enfants ont 5 ans ou 6 ans de façon rétrospective quand on interroge les parents.
Ce délai, c'est quoi exactement? C'est entre la prise de rendez-vous, l'étude de l'individu, les différentes spécialités qui vont être mobilisées. C'est quoi ce délai de 2 ans? Vous voulez répondre sur cette question, Christine Ménien?
Oui, je voulais donner une information. Il y a ce qu'on appelle aussi le phénomène de les parents interrogent d'abord leur médecin de ville, et souvent le médecin de ville est démuni, lui aussi, il n'a pas de connaissances. Et il y a aussi parfois une errance à ce niveau-là de diriger les parents déjà vers un centre de diagnostic. Alors ils sont rares, mais il y a déjà ce délai où on ne croit pas forcément à la famille sur mon enfant, c'est bizarre, il a des comportements particuliers, pourquoi il pleure tout le temps, pourquoi il dort pas, pourquoi il a des difficultés à manger. Et alors que physiquement, rien n'apparaît par ailleurs. Donc ça, c'est important aussi, la parole des parents, c'est important de l'entendre et que les professionnels soient attentifs aux premières alertes des parents. Pardon.
Professeur Jean-Marc Balait.
Je pense qu'il y a une question qui est celle de l'information. C'est-à-dire que l'information, elle doit être non seulement celle du grand public, celle des politiques pour pouvoir déclencher des politiques de santé publique conséquentes, et celle de tous les professionnels qui sont en première ligne, qui actuellement est insuffisante. Dans l'ensemble des études, qu'elles soient médicales, paramédicales, des professionnels, il y a la nécessité absolue d'augmenter les connaissances sur le repérage précoce des troubles de ces enfants qui vont en bénéficier, d'autant plus qu'ils vont être pris en charge de façon très précoce. Et comme on est effectivement à RFI, c'est aussi intéressant de savoir qu'un certain nombre de nos collègues très compétents, je pense en particulier à nos amis de Tunisie, qui sont beaucoup plus développés que nous à cet égard et qui ont mis en place un certain nombre de stratégies de repérage et de mobilisation des compétences des familles sur place. Donc je les salue ici, nos amis du Maroc également. Ce sont des gens qui, devant cette nécessité, avec des moyens bien inférieurs aux nôtres, ont mis en place des politiques de formation et d'information globale de la société qui entraînent une véritable mobilisation.
Avec quel relais? Les familles, les milieux éducatifs, les médecins de ville? C'est tout le premier degré d'information et de socialisation de l'enfant, Christine Ménien?
Oui, et ce qu'on en demande également en France, c'est d'intervenir même en amont de ce diagnostic, puisqu'il y a 2 ans d'attente, qu'il y a des suspicions. L'intervention précoce, c'est vraiment l'enjeu pour cet enfant de devenir autonome. Donc si on n'intervient pas tout de suite et qu'on attend ce diagnostic, demande auprès de la MDPH, ces orientations qui n'aboutissent à rien parce qu'il y a trop d'attentes, listes d'attentes, c'est de pouvoir mobiliser les professionnels sur des interventions très précoces. Nous, on a un établissement qui intervient dès 18 mois, qui est au proche du CHU de Montpellier, avec le professeur Badali, qui dirige ses enfants dès 18 mois, avec une potentialité qui puisse être un jour diagnostiqué autisme. Mais en amont de ça, on peut intervenir, on peut mettre des méthodes et faire progresser l'enfant sans attendre ce diagnostic qui, en France, effectivement, est un vrai problème, parce que ce qui a été tout à fait dit tout à l'heure, il manque d'équipes professionnelles pour ça.
C'est-à-dire que le temps passé dans l'autisme, c'est du temps perdu pour le développement. Mmh. Donc plus c'est pris en charge précocement, plus ça va être efficace. Et Denis Ribas, par exemple, cite cette nécessité absolue qui a été repérée depuis très longtemps. Je pense que c'est un des enjeux majeurs, ce repérage et cette sensibilisation de tous les professionnels, en particulier de la petite enfance.
Julie Deschaise, vous, il a fallu combien de temps pour mettre un nom sur votre situation, pour mettre un terme ?
Oui, alors j'ai 33 ans, j'ai été diagnostiquée à 27 ans. Et là encore, je ne suis pas la seule, il y en a beaucoup d'autres. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les professionnels de santé ne sont pas du tout formés à l'autisme et encore moins au syndrome d'Asperger. J'ai vécu une errance diagnostique d'environ 10 ans.
Mais avant, vous alliez voir des médecins en disant « qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai ? Il y avait des noms, des erreurs. Qu'est-ce qui se passait exactement ?»
Oui, j'ai été voir énormément de médecins en tout genre, parce que du coup, j'ai développé aussi d'autres difficultés. J'avais notamment des gros soucis en termes d'anxiété, de dépression, des problèmes digestifs, etc. etc. Et les médecins disaient tout simplement « vous êtes une jeune femme très anxieuse, voilà, bon, on ne me prenait pas du tout au sérieux. »
On vous donnait des médicaments pour tout cela ?
Non, heureusement, on ne m'a pas trop médiquée, donc ça, heureusement, je l'ai échappé belle. Mais effectivement, ça a été une très très longue errance, et il a fallu que ça soit moi qui tombe par hasard, entre guillemets, sur le témoignage d'une femme Asperger sur Internet pour me dire, mais en fait, c'est ça. Et pour me tourner enfin vers les professionnels compétents. Et effectivement, ils sont très peu nombreux.
Et une fois, justement, qu'on est pris en charge, non seulement qu'on a le nom, qu'on a la définition, mais aussi qu'on a les médecins ou les spécialistes, parce qu'il n'y a pas que des médecins qui peuvent justement vous aider, qu'est-ce que ça change ?
Alors ça, c'est compliqué, parce que d'un côté, moi j'ai envie de vous dire que ça a tout changé, parce qu'enfin j'ai pu mettre un mot sur ma différence, enfin j'ai pu me réconcilier avec moi-même, me dire voilà, non, je ne suis pas folle, c'est que c'est très compliqué pour moi effectivement de vivre et de survivre dans un monde de non-autistes, et donc j'ai décidé plutôt d'adapter mon environnement à mes particularités, plutôt que de passer mon temps à me suradapter, à me normaliser, ce qui m'épuisait et vraiment me conduisait droit dans le mur. Donc ça, c'est très important. Mais à côté de ça, concrètement, moi aujourd'hui j'ai les mêmes difficultés. Alors vous disiez tout à l'heure, je suis universitaire, je suis docteur en psychologie sociale, mais je n'ai pas de travail. Pour l'instant, je cherche, c'est très compliqué pour moi. Et j'aimerais pouvoir être accompagnée parfois par un psy compétent. Je n'en connais pas dans ma région qui puisse le faire. Donc vous voyez, ça reste très très compliqué malgré le diagnostic en fait.
On va se retrouver autour de ces micros, autour de cette table, juste après ce reportage. Reportage de Raphaël Constant dans un service d'éducation spéciale pour enfants et adolescents autistes de l'association AFG Autisme. C'est dans le 20e arrondissement de Paris, sur place. Ils sont 31, ils ont entre 5 et 19 ans, encadrés par 23 éducateurs.
Donc, nous faisons de la pâte à modeler. Mathis aime beaucoup ça. Donc, c'est une petite session, on va dire, on appelle ça du pairing. On joue avec les enfants petit à petit. C'est, voilà, je suis avec lui. Au début, il ne me regarde pas forcément, mais petit à petit, je vais lui proposer des choses, des outils, et un échange, un contact oculaire va se faire. Et on demande de plus en plus de choses comme ça, progressivement, et le contact se fait comme ça.
Donc là, juste par exemple, avec un bout de pâte à modeler violet, vous lui donnez, c'est déjà un contact, en fait, c'est ça ?
C'est ça. Après, par exemple, je peux lui demander progressivement de faire une empreinte de doigt. Il va imiter ce que moi, je fais. Après, ça peut être avec un emporte-pièce. Et en fait, à travers le jeu, à travers des centres d'intérêt agréables pour lui, on crée un contact. Ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Ça, c'est des choses que vous faites avec des petits, parce qu'on est dans la classe des plus petits ?
Oui. Les enfants, c'est de 5 ans jusqu'à 10 ans, là. Alors souvent, on fait un petit temps d'accueil ici, où on fait la date, on chante des comptines. Donc on mime beaucoup les chansons. Comme ils sont scolarisés le matin, on fait une petite session dehors, on va jouer au ballon, on fait un petit peu de foot, on va au parc, on va se balader, histoire que tout le monde s'aère un petit peu. On a le bar activité ici, où on reprend un petit peu les apprentissages du matin. Et puis après, chaque enfant a aussi une séance de psychomotricité dans la semaine. Et donc voilà, essentiellement, après, c'est le départ. Enfin, on fait petit goûter, puis après, le départ pour la maison.
Daisy, viens voir.
Alors là, qu'est-ce qu'il fait le petit garçon sur l'autre petit garçon?
Crache.
Il crache.
Crache.
Très bien. Et là, qu'est-ce qu'il fait le petit garçon?
Tape.
Il tape où?
Un genou.
Le genou. Très bien. Tout ça, c'est ce qu'il faut pas faire. C'est pas bien.
Papilla.
Non. Quand ça se passe mal, il vaut mieux en parler. On en fait une dernière image. C'est toi qui me racontes. Trois petits garçons.
Sont noirs.
Oui, ils sont tout noirs. Ils sont assis.
Assis. Et ils sourient.
Et ils sourient. Très bien. Bravo, Daisy.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
Je fais juste une petite séquence avec Daisy sur des images qu'on appelle des pictogrammes pour l'aider à la verbalisation, à prononcer des mots, parce que sinon elle a tendance à répéter des mots de vocabulaire qu'elle connaît, donc de développer le champ lexical. Et j'en profite du même temps de lui montrer des choses qu'il faut pas faire ou faire à travers des images, parce que chez Daisy, les images, les couleurs sont propices à la verbalisation. À la fois, ça permet à l'éducateur de partir dans un objectif éducatif précis, et à la fois, parce qu'on a des objectifs éducatifs, laisser l'enfant être ce qu'il est. C'est une enfant qui est très enthousiaste, très énergique. Et je trouve que c'est important qu'il y ait des petits temps ludiques sur table. C'est déjà un petit travail, pour moi, une séquence éducative intéressante.
Azoa, tu viens? Bonsoir.
Alors en fait, du coup, il y a un timer. Ça lui permet de savoir le temps qui lui reste pour son activité. C'est des jeunes qui ont souvent des difficultés avec les transitions, donc ça lui permet de savoir à quel moment son activité démarre et à quel moment elle se termine. Donc là, par exemple, il a un apprentissage, donc il va venir à la table d'apprentissage. Alors c'est un apprentissage sur les chiffres, apprendre à compter. C'est un jeune qui écrit plutôt bien, mais qui a besoin d'être posé à table parce qu'il est vite parasité par les bruits extérieurs. Alors fais les exercices dans l'ordre, s'il te plaît, mon grand. Combien tu vois d'arrosoirs? Un seul. Tu entoures le bon. Voilà, super. Ici.
1, 2, 3.
Très bien.
Ouais.
Entoure le 3.
Très bien.
Ici, on va faire la même chose, mais on va compter sur nos mains.
1.
Ouais, alors, il y a une main.
Et sur la main, il y a combien de doigts?
4.
Compte mes doigts.
1, 2, 3, 4, 5.
Très bien. Super, Azoa. Tu ranges dans ta pochette? Dans ce genre d'activité, on évite, quand on voit que ça peut être un peu difficile, de les mettre en échec, parce que c'est déjà difficile de se concentrer sur un moment d'apprentissage, parce que souvent, c'est des choses qu'ils ne savent pas faire. Et nous, c'est vrai que pour nous, les mathématiques, c'est important pour lui, dans le sens où on essaie de faire un lien, par exemple, apprendre à compter, savoir donner l'argent quand on arrive à la caisse, s'il met la table, savoir combien on va mettre d'assiettes, combien on va mettre de couverts, combien on est. Ça l'empêche dans son quotidien, en tout cas, d'avancer dans ce genre de moment. Donc c'est vrai qu'on essaye de faire un lien avec ce genre d'apprentissage.
Reportage de Raphaël Constant, professeur Jean-Marc Ballette. Là, ses enfants, dans une structure dédiée, ils apprennent, ils sont réceptifs quand on sait employer les modes de communication adaptés.
Oui, je crois que beaucoup d'équipes manifestent une très grande créativité, un certain nombre de médiations sont proposées. Aujourd'hui, il existe aussi de nombreuses méthodes innovantes qui associent effectivement des techniques de communication, un certain nombre de savoirs. Et je crois un point essentiel, c'est aussi le fait que les familles sont des partenaires à la fois du diagnostic et des prises en charge et des accompagnements qui sont proposés. C'est-à-dire qu'on fait maintenant, grâce à la vidéo par exemple, des observations ensemble avec les familles. Ensuite, on étudie les micro-interactions, on va réfléchir, la famille va nous montrer des choses qu'on n'a pas vues et réciproquement, on va pouvoir travailler ensemble sur des propositions. Et il existe de plus en plus de méthodes innovantes qui demandent à être validées par la recherche et qui demande à être ensuite diffusé. Donc je crois que ça fait partie de cette créativité extraordinaire qu'ont beaucoup d'équipes avec différentes formes de médiation et qui ensuite gagnent à être partagées et généralisées.
Justement, comment ça s'organise tout ça, ce lien entre le médical, l'éducatif, les éducateurs, le social? Comment, professeur Jean-Marc Ballette, ces prises en charge très différentes s'organise, c'est du ressort des établissements, c'est du ressort des parents, c'est du ressort des médecins?
Je crois que nous sommes dans une période, effectivement, de démocratie sanitaire, et depuis la loi de 2005, et même avant, dans une période d'empowerment, c'est-à-dire d'appropriation des situations de handicap ou de maladie par les familles. Donc c'est des slogans « rien sur nous sans nous ». Donc je pense qu'on est dans une période pour ça extrêmement constructive. C'est le fait qu'on puisse mobiliser autour de la situation d'une personne des compétences qui sont à la fois médicales, éducatives, pédagogiques et sociales. Et je pense que c'est là, dans cette articulation-là, où le pédopsychiatre devrait jouer ce rôle de chef d'orchestre pour pouvoir mobiliser toutes les compétences, donc celle de rééducation du langage, celle de mobilisation sociale, par exemple de faire des bilans neuropsychologiques qui soient approfondis, qui vont ensuite donner des éléments pour les pédagogues, pour faire des propositions pédagogiques adaptées à la situation de chaque personne, que l'on va pouvoir avoir cette construction la plus précoce possible de projets individualisés pour les enfants.
Alors là, on a entendu cette structure. Votre association Sésame, Christine Maignan, a ce type de structure. Vous en avez plusieurs. Est-ce qu'on peut dire qu'à la base, ces associations ont été créées pour sortir les autistes des hôpitaux psychiatriques ?
Alors effectivement, en 1963, quand on a créé Sésame Autisme, on l'a créé, enfin c'est donc des parents hein, qui étaient là et qui voulaient sortir leurs enfants de l'hôpital psychiatrique. C'est toujours un peu même dans la philosophie de Sésame Autisme, parce que tout ce qu'on essaye de construire, c'est effectivement pour, au moins sur les adultes, sortir ces personnes qui sont parfois jusqu'à plus de 50 ans en hôpital psychiatrique.
C'est encore une réalité aujourd'hui.
Ah, c'est encore une réalité aujourd'hui. Il y a récemment, on a permis à une personne, je vous dis, plus de 50 ans dans un établissement psychiatrique sans être habillée, vous imaginez ? C'est-à-dire qu'il a fallu lui apprendre à mettre des vêtements. Enfin, c'est assez terrifiant ce qu'on peut voir encore aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre histoire, c'est notre cœur de volonté, c'est trouver des solutions adaptées pour nos enfants, qu'elles soient à travers des établissements, des services ou des accompagnements vers le milieu ordinaire, parce que c'est ce qu'on fait également. On a créé également des centres de travail et qui permettent de faire des passerelles vers le travail ordinaire ou d'être au sein d'une entreprise également, parce que la vie d'une personne, eh ben ça va de l'école. On a parlé là, vous avez entendu un reportage sur un CESAD qui permet d'accompagner des enfants également à l'école. Il y a du personnel éducatif dans le médico-social qui vraiment sont maintenant au cœur de cette proposition d'accompagnement adapté, trop peu nombreux également. Hein. On a eu des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui commencent un petit peu à cerner les bonnes pratiques, et les professionnels commencent à s'approprier ces bonnes pratiques. Il faut continuer, mais c'est vrai que c'est vraiment le cœur du sujet, c'est de pouvoir proposer une multitude de solutions à ces personnes tout au long de leur vie.
Alors, je vais vous citer, hein, Julie Dachaise, dans votre livre, vous dites, ce qui reflète un petit peu votre philosophie, « Apprendre à s'aimer, cultiver son amour propre avec un soin infini ». On est très loin, justement, des situations un peu terribles qu'on vient de décrire, hein, l'hospitalisation, l'hôpital psychiatrique, tout ça. Vous, votre vie, c'est réapprendre à vivre simplement avec soi-même.
Oui, c'est ça, et c'est aussi mettre cet amour-propre au service de la cause. C'est-à-dire que je pense que j'aurais pas pu m'investir comme je le fais dans la cause de l'autisme et être militante, etc., si je m'étais pas réconciliée avec moi-même. Donc en fait, pour moi, se réconcilier avec soi, c'est aussi un tremplin pour pouvoir ensuite rendre service à la cause tout entière.
Alors, cultiver le bien-être, on pourrait aussi décrire votre vocation, celle de votre groupe Percujam. Laurent Millem, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, bonjour. Vous êtes éducateur, initiateur de concerts pas comme les autres, avec ce groupe Percujam, des artistes autistes, et vous insistez bien sur un point, ce n'est pas de la musicothérapie.
Alors voilà, c'est ça. Alors déjà effectivement, j'ai été éducateur pendant une dizaine d'années. D'ailleurs, je salue particulièrement Christine Maignan, que je connais bien. et du coup, effectivement, on a monté une institution pour les autistes musiciens qui a ouvert en 2000. Dans lequel, là, je suis passé chef de service éducatif, donc responsable des éducateurs. Donc effectivement, on n'a jamais, on fait pas de la musique, en tout cas dans un but thérapeutique. Après, bien évidemment, ça a forcément des vertus thérapeutiques, mais c'est pas ce qu'on recherche à la base. À la base, on est parti de leur bien-être et de leur épanouissement personnel, Et voilà, on a essentiellement joué, j'ai envie de dire, sur cet aspect-là.
Alors avant de poursuivre notre échange, on va justement écouter cette production de Percu Jam avec ce titre « Artiste autiste ».
Plus qu'une chanson originale, une rencontre pourtant peu banale. On faisait route derrière nos vies quand la musique nous réunit. Quelques jeunes gens très atypiques, munis d'anges gardiens sympathiques. Quand batterie, basse, guitare, piano, rencontre les travailleurs sociaux. Madame Ali, Madame, Dame, 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 Dame. Madame Ali, Madame, Dame, 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 Dame. Il a suffi d'une différence pour affirmer notre insolence auprès des juges et des partis, tout ce que la différence ennuie. On a beau dire, on a beau faire, le handicap quand il se voit te suit de l'ombre à la lumière, mais disparaît quand c'est de l'art. Madame Ali, Madame, Dame, 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 Dame. Madame Ali, Madame, Dame. Les mêmes avec une seule identité, avec un cœur, des rires, des peines, symbole de notre humanité. Juste le temps d'une chanson, allez vas-y donne-toi la main. Ce soir contre les différences, toi moi nous ne faisons plus qu'un. Madame Ali, Madame, Dame, 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 Dame. Madame Ali, Madame.
Percu Jam avec ce titre artiste autiste. Laurent Willem, on vous retrouve, hein, chef de service éducatif. Votre groupe a vu le jour dans une structure d'accueil en région parisienne. Oui, grande aventure.
Exactement.
Oui, trois albums, un live. Justement, les concerts, on imagine que c'est un moment très particulier pour vos artistes. Comment ça se passe, justement, cette performance en public?
Eh bien, écoutez, bon, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. C'est une initiative quand même qui est assez longue. Hein. On est de la Pramautisme à la base, hein, comme association. Et du coup, il y a eu voilà les premiers concerts un peu devant les familles. Ça a été leur premier public. Et puis petit à petit, ils sont ouverts à la ville, etc. Donc après, ils ont, j'ai envie de dire, chacun leur manière de surmonter leurs angoisses pour la scène, quand ils en ont, parce que certains n'en ont pas du tout.
Et quand ils sortent de scène, c'est quoi les témoignages? C'est quoi ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent de cette expérience?
Alors, je crois que quand ils sortent de scène, c'est essentiellement ce qu'ils peuvent voir dans les yeux des autres, ce qu'on leur envoie finalement. D'abord, je pense que ça a été le regard de leurs parents, qui a été pour eux, enfin le fait que leurs parents les regardent différemment, et puis après le public, c'est-à-dire que c'est les gens qui vont vers eux tout de suite. Et du coup, après ce moment fort qu'ils ont vécu avec le public, avec des gens qui ont la larme à l'œil, qui viennent les féliciter, là effectivement on les voit avec un autre œil, quoi, comme si ils avaient un peu conscience de la magie qu'ils étaient capables d'apporter à certains moments.
Merci beaucoup Laurent Willem, hein, chef de service éducatif, initiateur de ces concerts pas comme les autres, les troubles du spectre autistique. On retrouve nos trois invités en studio, professeur Jean-Marc Balette, chef de service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du centre hospitalier intercommunal de Créteil, Julie Dachès, blogueuse, docteur en psychologie, auteur de Dans ta bulle, livre publié aux éditions Marabout, et vous, Christine Ménien, présidente de la Fédération française des autistes. Christine Ménien, travailler, prendre en charge les autistes. On a pas mal parlé des enfants, mais il y a un point clé, c'est bien la prise en charge des adultes. Et là, si on peut dire qu'il y a des difficultés particulières pour les enfants, que dire justement de la prise en charge des adultes?
C'est le drame de la France. La drame de la France qui, depuis des années, a essayé de mettre en place, bon an, mal an, des politique publique depuis la prise en compte de, en 1995 de Madame Veil sur cette situation dramatique en France. Et malgré toute cette volonté d'essayer d'améliorer un petit peu la situation des personnes globalement, le point d'achoppement, ça a été les adultes qui ont été régulièrement les oubliés de plans successifs, qui fait qu'on est dans une aberration complète en France. C'est-à-dire que vous parliez de l'hospitalisation en milieu psychiatrique, c'est une chose, c'est inadapté, c'est certes. Même les hôpitaux psychiatriques nous demandent de créer des places pour les sortir, parce qu'ils sont conscients que c'est pas la place de ces personnes-là, à cet endroit-là. Mais c'est également la honte de la France avec l'exil forcé des personnes en Belgique. Il y a plus de 8000 personnes, dont 1200 enfants qui sont en Belgique actuellement, scolarisés en Belgique, mais et pour le reste, ce sont des personnes adultes qui sont exilées par défaut, parce que la France n'a pas les moyens de les prendre en charge ici, mais par contre, la France finance les places en Belgique. Il faut savoir ça. Ce qui est le drame, c'est pas que c'est payé par le gouvernement belge. C'est la France qui finance ces places en Belgique. Et nous, on demande mais pourquoi vous avez pas fait ça? Parce que qu'est-ce qu'on rêve pour nos enfants? C'est la proximité.
Et on vous répond quoi?
Bon, voilà. Si vous imaginez, voilà, le blanc qui vient de se passer, la réponse.
Parce que ça
publique.
Paraît tellement, la France paye, la France voit la difficulté des familles, ça rime à quoi?
Ils se sont pris les pieds dans un tapis, qu'ils n'arrivent pas à savoir comment s'en sortir, je pense, actuellement, et que ça demanderait vraiment des investissements énormes pour un retour en arrière. Nonobstant, il faut quand même construire cette vie des personnes adultes. Et aujourd'hui, je vous ai parlé donc de l'exil en Belgique, mais il y a toutes ces personnes qui sont maintenues à tort dans des établissements pour enfants alors qu'ils ont dépassé 20 ans. Nous, on sort actuellement des personnes qui ont 29 ans, qui sont dans des établissements pour enfants de 5 ans. C'est pas normal. Mmh. Tout ça, il faut que, et tout ça parce que c'est pas de la faute des personnes qui sont là. C'est la faute qu'il n'y a pas d'issue pour elles. Il n'y a aucune proposition de solution actuellement pour les adultes. Donc, on est englué d'un retard qui s'est cumulé d'année en année et on a 20 ans de retard pour ces personnes-là.
Jean-Marc Ballet, professeur, vous voulez réagir, mais pas trop longtemps parce qu'il faut qu'on aille à Douala et que je donne aussi un petit peu la parole à Julie Deschès qui est avec nous.
Juste pour dire que l'autisme renvoie à notre société un miroir, une image qui est celle d'une société de performance où ce qui est attendu de l'individu entrepreneur, c'est celui de pouvoir se réaliser lui-même et que des personnes qui, par définition, ont besoin d'être considérées dans leur vulnérabilité et leur difficulté d'adaptation à un certain nombre de règles sociales, finalement, ne vont pas trouver des réponses adéquates. Et on évoquait la colère d'un certain nombre d'acteurs dans le champ de l'autisme et je pense que là, nous sommes en face d'une des contradictions fondamentales de notre société qui érige des valeurs et qui, à travers ces situations particulières, se rend compte des limites de ces réponses.
Une hypocrisie aussi, hein. Discrimination, singularité, Julie Deschès, dans votre parcours, dans votre livre, vous donnez la parole à d'autres personnes autistes, vous mettez assez peu en avant vos propres difficultés, votre propre souffrance, hein. c'est pas votre vie à proprement parler, mais vous décrivez quand même l'immense souffrance des personnes à qui vous donnez la parole, ces personnes sur lesquelles vous avez travaillé et que vous avez rencontrées.
Oui, en réalité, il est important de dire un mot sur cette souffrance, parce que cette souffrance, elle n'est pas intrinsèque à l'autisme. Et je pense que c'est ce qu'on comprend en lisant le livre. D'un seul coup, on se rend compte, mais en fait, ces personnes-là, elles ont énormément de qualités, encore une fois, énormément de compétences, elles ont beaucoup à offrir.
Ils ont très envie d'être heureux, justement.
Ils ont très envie d'être heureux, et malgré toutes les difficultés, ils n'ont de cesse de rebondir, etc. Et on se rend compte qu'en fait, leur souffrance, elle est due à une seule chose, c'est l'exclusion qui est imposée par la société. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce titre dans ta bulle. C'est un petit peu ce cliché de la bulle, de l'autiste, soi-disant, incapable de communiquer, etc. En fin de compte, si on est dans une bulle, c'est cette bulle d'exclusion qu'on nous impose. Voilà, et dont on n'est absolument pas responsable.
Des obstacles partout dans le monde. On va voir justement comment ça se passe à Douala.
Priorité santé sur RFI.
Illustration donc au Cameroun. On vous retrouve, Marie-Mélanie Bell, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente du centre Orchidée Home, un centre que vous avez fondé donc dans la ville de Douala. Alors expliquez-nous, Marie-Mélanie Bell, pourquoi avoir monté cette structure?
Eh bien, tout simplement parce que vous entendez ce que disent les parents à Paris. Je salue Christine qui est avec vous au studio. Les mêmes difficultés, les difficultés sont les mêmes à travers le monde. Alors, et nous, au Cameroun, en Afrique, elles sont multipliées par 10 000, j'ai envie de dire. Donc, au Cameroun, il n'y avait rien. Quand je découvre que mon fils est autiste, aujourd'hui, il a 29 ans, il avait 10 ans, j'avais pas de solution. J'avais des professionnels que j'ai consultés en Europe et ils m'ont dit, la seule solution, c'est de mettre en place une institution. Il n'y a pas de médicaments. Et il n'y a rien d'autre à faire que l'éducation et l'éducation spécialisée, l'éducation individualisée surtout. Et n'ayant pas de choix, j'ai retroussé les manches, j'ai acheté un terrain, j'ai monté une association et aidé par des sponsors, voilà, nous avons construit cette école aujourd'hui qui apporte beaucoup de bonheur aux parents. Et malheureusement, c'est le seul projet que nous avons de réellement consistant dans notre ville.
Et comment les enfants arrivent justement dans votre structure? Ils ont quel âge et qui vous les envoie? Est-ce que sont les parents qui viennent vous voir ou est-ce que ce sont des médecins qui vous les adressent, Marie-Mélanie Bell?
Peu de médecins, très peu de médecins, parce que chez nous, le diagnostic de l'autisme est encore quelque chose de compliqué pour les pédiatres. C'est souvent les parents qui arrivent en disant « soit j'ai suivi à RFI, soit j'ai vu à la télé ». Soit j'ai vu Madame Bell expliquer ce qu'elle expliquait, mon fils fait comme ça, et c'est comme ça que les parents nous arrivent, par leur propre dépistage à la maison, très peu par les médecins, mais nous les renvoyons chez les médecins, parce que nous disons, ce que vous avez observé, c'est peut-être pas d'autisme, et nous ne pouvons prendre un enfant que sur la base d'un diagnostic médical qui comporte plusieurs examens à faire et avant une confirmation, et c'est le médecin qui doit parler en matière de dépistage. Et quand l'enfant, le dépistage est confirmé, nous avons un partenariat avec une association française de psychologues et leur présidente, Madame Mylène Lemus, arrive tous les 6 mois au Cameroun pour faire les évaluations et les enfants sont évalués et le petit groupe d'éducateurs spécialisés que nous avons commence dans la prise en charge et au sein d'une équipe. Nous avons dans l'équipe un orthophoniste, M. Mao. Nous avons également un psychomotricien sur place, M. Adolphe Icom. Donc, entre les éducateurs, l'orthophoniste, le psychomotricien, l'enfant tourne toute la journée auprès de cette équipe et c'est ce qui fait avancer les enfants et voilà, donc nous avons mis finalement également en place, aidé par la psychologue qui nous a apporté les programmes de formation, nous avons ouvert depuis 2 ans une école, l'équivalent d'une IRTS, une école qui forme les travailleurs sociaux et les premiers les éducateurs spécialisés. Donc nous sommes à notre deuxième promo bientôt au Cameroun, l'année prochaine possiblement. Nous aurons le premier éducateur spécialisé au Cameroun. Vous imaginez, vous parlez, les parents parlent de ce qui manque. Nous, le métier n'existe même pas. Les personnes qui peuvent accompagner tout simplement des enfants, c'est là que nous commençons enfin la formation de ce type de professionnels. Mais malgré cela, nous avons espoir parce que je dis toujours, l'autisme, c'est un handicap à vie. Donc, quel que soit le moment où on commence, avec détermination et avec la détermination du parent surtout, du parent, et on fait bouger les lignes. Et c'est nous, on vit sur cet espoir-là.
Merci beaucoup Marie-Mélanie Bell. Je rappelle que vous êtes présidente du centre Orchidée Home Julie Dachaise. Dans votre livre, vous dites que c'est un outil militant. On entend justement les parents mobilisés, on entend aussi les médecins mobilisés qui disent « ça ne suffit pas ». Et vous, dans votre livre, j'aimerais retenir cette phrase, vous reprenez le mot d'ordre « je suis différente, pas déficiente ». Mais pourquoi est-ce que le monde ne le comprend pas?
Oui, alors ça, c'est une citation qu'on doit à Temple Grandin. Pourquoi le monde ne le comprend pas? Eh bien, simplement parce qu'à partir du moment où la psychiatrie s'est emparée de l'autisme, on a cessé de le considérer comme une somme de déficience. Et on est resté là-dessus. On est resté sur cette idée que c'est une maladie, plus ou moins, hein, qu'il convient de guérir, de corriger absolument. Et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que tant qu'on continuera à penser ça, on va faire peser sur les seules épaules de l'individu le poids de ses difficultés. Et moi, je pense qu'il faut élargir la focale, et il est vraiment urgent de le faire, et plutôt aller questionner la société, et en fin de compte, militer en faveur de l'inclusion, parce que ce dont on souffre, encore une fois, parfois c'est pas de notre autisme, mais on souffre plutôt du fait de ne pouvoir accéder à l'éducation, à un travail, à un logement décent, etc., etc. Donc c'est là qu'il faut aller regarder.
Tous ces obstacles, pour lesquels d'ailleurs la France a été condamnée à plusieurs reprises, Christine Ménien, discrimination, défaut d'éducation, de scolarisation, de formation professionnelle. Est-ce que ce genre de décision de justice, ça peut changer les choses?
Je pense que la France, quand même, a pris conscience au fur et à mesure de son retard, et qu'elle a entendu les associations de familles et les associations des personnes elles-mêmes autoreprésentantes sur le fait qu'effectivement la société doit s'ouvrir, on doit changer les regards. Effectivement, on est une personne avec autisme, mais on est aussi une personne avant tout avec un accès aux droits, on en a parlé tout à l'heure, et notamment aux droits aux soins somatiques, accès à l'école, accès à l'emploi, à un logement à proximité et pas hors de nos frontières. Donc tout ça, il faut que ça évolue, parce que on se heurte continuellement, pas seulement à des problèmes politiques, mais parfois aussi des problèmes de regard des personnes sur les personnes autistes.
On voit justement l'importance de ce chantier, c'est véritablement énorme. On arrive à notre conclusion, professeur Jean-Marc Ballet, 4e plan autisme qui est sur le point d'être rendu public. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, en tant que chef de service psychiatrique, et comment les médecins sont-ils associés à ce genre de plan?
Je pense qu'il y a une petite révolution qui est en train de s'opérer en France depuis les plans autisme successifs, et grâce en particulier à la mobilisation des associations. Donc je pense que globalement, il faut se réjouir de cette dynamique, et j'espère que les colères vont être dépassées par la capacité à unir nos forces dans nos différences. Je pense que la psychiatrie a un rôle important, et je pense que c'est fondamental de comprendre que des diagnostics d'excellence, des diagnostics experts très précis vont permettre précisément ce que vous disiez, c'est-à-dire de mobiliser les compétences de l'ensemble de l'environnement. C'est-à-dire que l'idée de pertinente, me semble-t-il, pour intervenir, c'est comment, grâce à des diagnostics très précis, grâce à des méthodes validées et qui puissent être ensuite diffusées, on peut rendre l'ensemble des partenaires, qu'ils soient éducatifs, qu'ils soient pédagogiques, que ce soit les familles, compétents pour mieux s'occuper de la personne qui est parmi eux. Donc je crois que c'est le quatrième plan a une double fonction très importante, je pense, de donner des moyens, en particulier à la recherche. À la Fondation Fondamentale, on a des projets plein les tiroirs qu'on ne peut pas développer faute de moyens. Je pense qu'il est indispensable qu'il y ait une très forte mobilisation sociétale, mais aussi dans les représentations des personnes, le fait que ce soit l'ensemble des acteurs qui soient déterminants dans l'évolution d'une personne avec autisme.
Merci à vous quatre d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Merci Christine Ménien, présidente de la Fédération Française Sésame Autisme, Julie Dachaise, auteure de Dans ta bulle aux éditions Marabout, professeur Jean-Marc Ballet, chef du service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au centre hospitalier intercommunal de Créteil. Tout à l'heure, on avait Percujam, l'éducateur, le chef de service qui a rendu ce projet possible. Eh bien, mercredi, dans les salles, un documentaire consacré à cette aventure sort. Le film s'appelle tout simplement Percujam. Merci de rester à l'écoute de RFI. Chaque jour, pour fabriquer cette émission, notre équipe a c'est tout ça maquée Ophélie Lassène, Didier Bleu. Et demain, dans Priorité Santé, nous parlerons du burn-out maternel, si vous voulez témoigner. Le numéro de l'émission, c'est le 33 1 84 22 75 75.
C'était Priorité Santé, avec Sounou Assurance, qui vous recommande d'avoir une épargne sécurisée pour assurer vos projets en toutes circonstances. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.